Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, enregistré chacun chez soi, à distance, dans l'espace, mais néanmoins tous ensemble pour débattre d'une question, peut-on faire une lecture de genre de la crise du coronavirus ? Le coronavirus a bousculé nos habitudes de vie et révélé en même temps l'importance de certains métiers habituellement négligés, métiers majoritairement féminins, comme ceux du soin évidemment, mais également de l'alimentation ou de la vente. Il a également enfermé chez soi des femmes à la merci de leurs conjoints violents, mais aussi donné une place à une parole de guerre et de combat, généralement apanage traditionnel des gouvernements masculins. Quant aux commentaires sur la crise, dans les journaux ou dans les revues, ils ont été majoritairement dévolus à des hommes. Bref, peut-on faire une lecture de genre de ce moment que nous vivons ? C'est la question que nous posons ce soir à nos trois invités. Depuis l'Espagne où elle vit, à Laura Freixas, elle est écrivaine et essayiste féministe. Elle a écrit pour La Conversation Mondiale sur le site de France Culture un texte sur ce qui est aussi une crise du soin, dit-elle. Deuxième invitée de cette discussion, l'historienne Laure Murin, qui enseigne au département d'études françaises et francophones de UCLA en Californie et qui a écrit en 2018 une réflexion sur l'après Weinstein. Et enfin, l'économiste Hélène Périvier, directrice du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre à Sciences Po, le programme Présage. Je vais commencer avec vous, Hélène Périvier, bonsoir. Juste pour vous demander, est-ce qu'il est possible déjà de faire une analyse à chaud de ces questions que nous allons traiter aujourd'hui, c'est-à-dire des questions de genre appliquées à cette crise que nous vivons, et en particulier d'avoir des chiffres. On a des chiffres d'avant, mais est-ce qu'il est possible de voir si cela a été documenté et permettrait à des universitaires, à des chercheuses et à des chercheurs de réfléchir à cette question-là avec cet angle-là ?
Alors, merci, bonjour, je suis ravie de participer à cette émission. D'abord, peut-être pour dire que non seulement on peut faire une lecture de genre de cette crise, mais on doit faire une lecture de genre de cette crise. Cette crise ne révèle pas des inégalités de sexe. Ces inégalités existaient bien avant la crise, on le sait, elles sont structurelles, elles sont très ancrées dans le fonctionnement de nos sociétés. Les normes de genre sont encore très fortes, elles déterminent les capacités d'émancipation individuelle et on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit sur le marché du travail, dans la sphère politique ou comme vous l'avez dit dans les médias, les femmes sont sous-représentées. Et donc cette crise ne fait que mettre en exergue ce niveau des inégalités. C'est donc extrêmement important de réaliser que nous devons absolument, dans la sortie de cette crise, mettre tout en œuvre pour lutter contre les inégalités. S'agissant des métiers, vous en avez parlé, les femmes sont surreprésentées dans des métiers qui sont encore aujourd'hui sous-valorisés. Et donc, il est extrêmement important de pouvoir mettre au centre du débat public la valeur de ce travail et les salaires qui y sont associés. Donc, je pense qu'effectivement, une lecture genrée de cette crise est absolument indispensable.
Laure Murin, je rappelle que vous êtes enseignante en littérature française et francophone, en études françaises et francophones en tant qu'historienne à l'Université de Californie, à UCLA. Il y a récemment, dans la presse belge, dans le Soir de Bruxelles, une tribune d'une quinzaine d'universitaires belges qui a dit que c'était une crise du genre que nous vivions avec cette crise du coronavirus et qui a remis en scène des slogans féministes comme le privé et politique, à travail égal, salaire égal ou encore travailleurs de tout pays qui lavent vos chaussettes, qui étaient des slogans de la seconde vague du féminisme dans les années 70. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne approche justement que de partir de cette histoire un peu longue du féminisme et de la manière dont elle a été remise en jeu par cette crise du coronavirus ?
Oui, moi je suis toujours pour en effet remettre dans un contexte, mais je crois que ce qui vient d'être dit est très juste, c'est que non seulement il faut faire cette analyse de genre et on doit la faire. Maintenant, il faut savoir ce que cette crise change dans notre appréhension du genre et dans la mobilisation des femmes et dans les problèmes de discrimination. Je voyais sur un site américain que l'espoir que la crise pourrait être le vecteur de ce qu'on appelle en anglais le gender equalizer, c'est-à-dire un égalisateur de genre. Or, on se rend compte que la crise, a priori, non seulement ne rend pas les choses plus égales, mais au contraire, exacerbe les problèmes de discrimination et les problèmes qui sont à la charge des femmes. Je pense notamment, évidemment, à ce qu'on voit toujours dans les journaux, la charge mentale, mais aussi la charge émotionnelle, Camille Froide-Vaumétry en parlait dans la revue AOC récemment.
Comment peut-on qualifier cette charge émotionnelle, d'ailleurs, qui n'est pas quelque chose de très connu, contrairement à la charge mentale, Laure Murat?
Vous savez, la charge émotionnelle, on pourrait dire que c'est quelque chose de culturel, qui est que les femmes réconfortent, les femmes soignent, les femmes nourrissent, les femmes prennent soin, etc. Et cette charge émotionnelle, c'est les hommes se confient à elles, etc., etc. Ce qui n'a évidemment rien de naturel, mais de tout à fait culturel. Mais ça pèse énormément dans la vie des femmes. Il y a eu pas mal d'articles dans le New York Times notamment sur le fait que les femmes ont l'impression aujourd'hui d'avoir 5 métiers en même temps, parce que non seulement elle doit faire l'école à la maison, elle doit faire la cuisine. Je sais bien qu'il y a des foyers où ça ne se passe pas comme ça, je ne suis pas en train de généraliser. Mais enfin, disons que à 80%, à peu près, on estime qu'entre 70 et 80%, ce sont les femmes qui s'occupent de tout ça et qui prennent sur elles, au lieu de prendre sur les autres, qui prennent sur elles le fait, voilà, de consoler, si vous voulez, hein, de consoler et de faire des tâches, voilà, comme laver les chaussettes, qui ne sont pas forcément très valorisantes, mais qui sont utiles. Donc, je crois profondément que, sans avoir l'espoir que cette crise égalise quoi que ce soit, il faut qu'elle nous réveille, hein, littéralement. Sur les problèmes de discrimination et tout ce que les féministes disent depuis toujours, je crois qu'il n'y a rien de nouveau, en quelque sorte. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le fait d'envisager l'avenir autrement. Hein, je crois que le potentiel révolutionnaire, je pèse mes mots, le potentiel révolutionnaire d'un mouvement comme MeToo, éventuellement d'un mouvement comme les Gilets jaunes, par exemple, montrait bien que, et évidemment tout ça lié à une crise écologique qui est absolument dramatique, c'est la première chose, bien entendu, puisque c'est de ça que nous souffrons aujourd'hui essentiellement, ça vient de là. Bon, mais évidemment tout ça est un problème politique général, et si nous ne profitons pas, quand je dis nous, je dis les féministes, si nous ne profitons pas, si nous ne de cette crise pour faire avancer un projet politique cohérent, ce sera vraiment dramatique. Ça, vraiment, je le pense.
Laure Freychas, vous êtes écrivaine. Malheureusement, aucun de vos ouvrages n'a été traduit pour l'instant en France. On peut l'espérer pour bientôt. Vous êtes essayiste, féministe aussi en Espagne. Vous avez fondé une association pour l'égalité de genre dans la culture qui s'appelle Clásicas y Modernas. Vous êtes présidente d'honneur de cette association pour l'instant. Et vous avez réfléchi à cette question-là pour un texte que vous nous avez confié donc dans la Conversation mondiale, publié sur le site de France Culture, sur ce que vous appelez, non pas une crise du genre, mais une crise du soin. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, cette crise du soin dans la société contemporaine?
Alors, je pense que la société, pas seulement contemporaine, est très hypocrite dans ce sens où elle est fondée sur l'idée que l'individu est autonome, et quand on envisage les citoyens ou les travailleurs, on oublie complètement que ces travailleurs ou ces citoyens ne pourraient pas avoir cette autonomie s'ils n'avaient pas derrière tout un travail invisible qui est normalement, pratiquement toujours fourni par les femmes, qui est le travail de soins dans un sens très large, comme le disait Laure ou Hélène tout à l'heure, ça inclut la charge mentale et la charge émotionnelle. Et or, ce travail de soins est invisibilisé, il n'est pas payé. Et le problème de cette crise, c'est que, comme disait encore une fois Hélène et Laure, elle révèle des inégalités très graves qui existaient déjà, mais en elle-même, la crise ne va pas changer cela. Au contraire, ça va accentuer les inégalités. Les femmes payent très cher le fait d'être socialement destinées par plein de mécanismes visibles, invisibles, subtils. Elles sont, disons, obligées à prendre en charge les soins. Et elles payent ça très cher parce que, comme c'est un travail qui est invisible et qui n'est pas rémunéré, ou alors il est rémunéré de façon, elle travaille au noir ou elle travaille pour vraiment pas cher en soignant des personnes en dehors de la famille, mais elles prennent en charge tout ce continent-là, Et le fait que, comme je le disais, ce ne soit pas rémunéré, fait que ça les pousse vers la pauvreté et vers la dépendance économique et donc la subordination vis-à-vis des hommes.
Alors cette question-là, justement, Hélène Périvier, vous le disiez en ouverture de cette émission, elle est documentée, effectivement, mais néanmoins, on peut se dire, et c'est peut-être un effet de la crise, que justement, il y a eu une reconnaissance, certes tardive, certes imparfaite, par les politiques, aussi par les citoyens et les citoyennes, de ce travail invisible qu'évoquait jusqu'alors Laura Fréchasse. Alors certes, ça ne paye pas ces applaudissements au balcon à 20h tous les soirs, que ce soit d'ailleurs en Espagne où cela a commencé, ou en France, mais néanmoins, il y a une sorte de reconnaissance, en tous les cas reconnaissance symbolique, de l'importance de ce type de métier. Est-ce que cela, c'est à noter, justement, Hélène Périvier, par rapport à la situation antérieure ?
Oui, alors peut-être d'abord pour préciser quelque chose, parce qu'on parle de deux choses différentes. Il y a la division sexuée du travail au sein de la famille, dans les couples, dont on sait que les femmes réalisent en France, par exemple, plus de 70% du travail d'éducation et de soins aux enfants et du travail domestique. Et puis, il y a la question du marché du travail et de la ségrégation des métiers, où d'une certaine façon, les normes de genre reproduisent cette division du travail. Les femmes sont surreprésentées dans les métiers de l'éducation, du social, du soin. Mais c'est une distinction importante à faire, surtout du point de vue de la rémunération, parce que quand on travaille, on a quand même un salaire. La question qui se pose alors, c'est le niveau de ce salaire, alors que quand on est dans la famille et qu'on fait une partie de ce travail domestique et familial, on ne reçoit pas un salaire, mais je ne dirais pas que c'est pas un travail non rémunéré, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'aides sociales, alors ça dépend beaucoup des pays, mais qui viennent compenser une partie de ce travail, mais néanmoins, ça crée une dépendance, alors soit vis-à-vis du conjoint quand il n'y a pas d'aide vis-à-vis d'aide publique, soit vis-à-vis de l'État social, lorsque c'est sous forme de congés parentaux, congés pour parents malades, etc. Donc il faut quand même faire cette distinction-là, qui me semble assez importante. Maintenant, s'agissant du marché du travail et de ces métiers qu'on applaudit tous les soirs, notamment les aides-soignantes, les caissières, c'est vrai que ce sont des travaux dans lesquels dans lesquels les femmes sont particulièrement représentées, et qui ont un niveau de reconnaissance à la fois économique et sociétale qui sont encore très faibles. Alors on peut dire que ces applaudissements, en partie, leur sont adressés et du coup compensent le manque de reconnaissance sociétale. Néanmoins, il va falloir aussi qu'on mette sur la table la question des salaires. Il y a une tribune publiée par ma collègue Rachel Silvera et Séverine Lemierre qui montre que il faut revaloriser ces métiers qui sont profondément importants dans nos sociétés et dont l'avenir est crucial, parce qu'on ne va pas pouvoir faire face au vieillissement de la population sans avoir des personnes formées, avec des perspectives de carrière, avec des salaires qui leur permettent de vivre correctement et à la hauteur de l'engagement qu'elles ont. Voilà, c'est toute cette réflexion-là qu'il va falloir remettre sur la table, et peut-être, je l'espère, que cette crise sera l'occasion de revoir en particulier ce type d'emploi, ce qui permettra de repenser la valeur de ce travail.
Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'effectivement, cette tribune publiée par Rachel Silvera et que vous avez signée vous-même, Hélène Périvier, dit il y a la question du travail égal, salaire égal, ça c'est une question, mais il y a le travail de valeur égale. Et par exemple, compare le salaire d'une infirmière en France qui est inférieur de 9% au salaire moyen, mais en Allemagne, il est supérieur de 10% au salaire moyen, et en Espagne, de 28% du salaire moyen. Donc déjà, il y a des disparités à l'intérieur de chacun des pays, mais il y a également des disparités entre les pays européens, par exemple, Hélène Périvier, sur ces questions de reconnaissance de ce type de travail du soin, par exemple.
Oui, tout à fait, et parce qu'il n'y a pas de prix de marché, si vous voulez que je prenne ma casquette d'économiste, parce que ce sont des métiers dans lesquels la question n'est pas une question, n'est pas celle-ci, c'est la question de la valeur que l'on attribue à ce travail qui est un travail de long terme. C'est vrai aussi des enseignantes, hein. On voit des grosses disparités de salaire en Europe, et la France est particulièrement mal placée du point de vue du niveau des salaires des enseignants, on le sait. Donc il y a une réflexion sociétale à avoir sur ces métiers, leur valorisation, mondialisation. Du point de vue des inégalités de salaire, c'est absolument central parce que le principe à travail égal, salaire égal, ne peut pas être appliqué si on ne prend pas en compte cette ségrégation de l'emploi, c'est-à-dire cette surreprésentation des femmes dans des métiers mal valorisés. C'est pour ça qu'il faut passer à ce principe de à travail de valeur égale, salaire égal, pour qu'on puisse renégocier de la pénibilité, de la charge que recouvre ce type d'emploi, de ce que ça implique en termes de compétences, de formation. C'est toutes ces questions-là qu'il faut que l'on rediscute, et ça fait vraiment écho aussi aux questions qu'on peut avoir sur la question de la pénibilité dans le système de retraite. C'est exactement le même type de démarche qu'il faut avoir, c'est-à-dire renégocier entre partenaires sociaux la valeur de ces emplois et la centralité qu'ils ont dans nos sociétés.
Oui, d'ailleurs, Laura Fréchat, je donnerai ensuite la parole à Laure Murin. Laura Fréchat, la particularité, c'est qu'effectivement, par exemple, vous le mentionnez dans le texte que vous avez donné à la conversation mondiale, eh bien, le gouvernement Zapatero, en 2007, avait donné un maigre salaire, 300 euros pour les personnes, les femmes qui s'occupaient justement de leurs proches ou à l'intérieur de leur famille, de personnes dépendantes. C'était, selon vous, une façon au moins de reconnaître effectivement ce travail qui était accompli par les femmes au sein de leur propre famille, par exemple.
Oui, cette initiative du gouvernement socialiste de Zapatero était très importante parce que, bien que très insuffisante, c'était un premier pas vers la reconnaissance de ce travail que les femmes assument comme allant de soi et qui n'était même pas, il y a deux générations, la génération de ma grand-mère ou même de ma mère, n'était pas considérée un travail. Donc le fait de considérer que c'est un travail, qu'il demande un effort, eh bien ça nous mène à nous demander ce travail est-il rémunéré, oui ou non, et pourquoi. Est-ce qu'il a des horaires? Est-ce qu'il a des vacances? Donc c'est un premier pas pour cette reconnaissance. Malheureusement, le gouvernement de droite, après, a fait un peu marche arrière. Ça avance difficilement. Mais je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Laure Murin sur la valeur du travail. Ce n'est pas une question de travail égal, parce que le travail n'est pas le même, le contenu n'est pas le même, mais de la valeur que nous donnons au travail. Et justement, je voulais vous citer une étude qui était très très curieuse par sa conclusion. C'était une étude sur des différences de salaire. Et la conclusion, le titre dans le journal était « Nous payons plus les gens qui s'occupent de nos voitures que les gens qui s'occupent de nos enfants ». Alors, pourquoi ? Évidemment, nous donnons plus de valeur à nos enfants qu'à nos voitures. Alors pourquoi est-ce que nous payons moins ces femmes normalement immigrées qui s'occupent de nos enfants que les gens, normalement des hommes, qui réparent nos voitures ? Eh bien parce que le fait qu'un travail est fait par des femmes est automatiquement dévalorisé. Et je pense que c'est ça qu'il faut réviser. Et cela demande de réviser nos systèmes de valeurs. Et pour cela, je pense que la culture est très importante. Parce que la culture, toute notre éducation, nous mène à valoriser les hommes, leur point de vue, leurs intérêts, ce qu'ils font. Et nous manquons, par exemple, comme vous le disiez dans l'introduction à cette émission, nous manquons d'exemples, de modèles et de métaphores pour affronter la crise qui ne soit pas masculine. C'est-à-dire, nous affrontons une crise qui est surtout une crise des soins, qui demande des soins, et nous le faisons avec l'image masculine de la guerre et des héros évidemment masculins, et qui est une image fausse en plus, parce que il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas, ce n'est pas agresser, ce n'est pas des armes qu'il nous faut, c'est le soin, et donc ce sont des femmes.
Oui, Laure Murin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche? Et surtout, il y a une autre question qui se pose à propos de cette lecture de genre possible de la crise que nous vivons. C'est l'enfermement chez soi. L'enfermement chez soi, ça peut être une bénédiction. On sait combien l'ouvrage de Virginia Woolf en 1929 sur une chambre à soi disait que une femme qui possède un endroit dans la maison ou l'appartement où pouvoir justement réfléchir, penser, peut-être écrire, etc., est quelque chose d'important. Mais évidemment, dans beaucoup d'endroits, cet enfermement chez soi signifie à nouveau, d'une certaine façon, l'impossibilité de vivre dehors, l'impossibilité de voir d'autres personnes que sa propre famille, par exemple, Laure Murin.
Oui, de voir sa famille et de s'en occuper aussi, de faire l'école aux enfants et les courses, etc.
Et je crois que les femmes sont certainement pas celles, et là on parle de gens privilégiés bien sûr, qui ont une chambre à soi à l'intérieur de l'appartement ou de la maison ou de l'immeuble. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est pas à celle-là en priorité qu'on accorde une chambre à elle. Par ailleurs, je voudrais revenir. Je vais continuer bien sûr sur l'enfermement et sur les différentes modalités d'enfermement. Mais je voulais insister aussi sur cette idée de travail invisible, disons celui de la mère de famille, la mère au foyer, la femme au foyer, en gros, et ces métiers dévalorisés. Parce que je crois vraiment au potentiel politique d'une certaine sortie de crise. On peut dire aussi que, par exemple, avec la précarité et l'ubérisation des métiers, les livreurs, par exemple, sont des gens dans la précarité. Ils sont massivement des hommes. Hein, ce ne sont pas des femmes. Ou par exemple les éboueurs. Hein, les éboueurs, je regarde sur Internet, ils sont payés 1 700 € par mois, c'est-à-dire la même chose qu'une infirmière. Or, ce que je crois, c'est que cette crise sanitaire a révélé une crise du service, hein, et une crise du service public, en particulier. Mais les métiers de livreur ou d'éboueur ou d'infirmière sont des métiers aussi de service. Et donc, il faut absolument revoir ça de fond en comble. Pardon pour cette parenthèse, mais maintenant sur l'enfermement chez soi, je n'ai jamais pensé que l'enfermement, et je suis une spécialiste de l'histoire de la psychiatrie, donc je peux en parler, oui. J'ai jamais pensé que l'enfermement était une bonne chose, et quand les journaux demandent à des écrivains de raconter leur journal de confinement, etc., il y a un côté un tout petit peu agaçant, je trouve, et un petit peu complaisant, de dire, voilà, je me mets à ma fenêtre, j'ai de l'inspiration, quel bonheur d'être enfermé. Je regrette que cette émission soit faite, et pourtant ça fonctionne très bien, mais je regrette qu'on ne soit pas ensemble dans le studio. Voilà. Donc, même enfermé dans le studio. Donc je ne crois pas que là il y a quelque chose d'un peu complaisant, à mon avis, d'élucubrer comme ça sur l'enfermement. Je crois que c'est très grave notamment pour les femmes battues. On voit qu'il y a une augmentation des violences conjugales. Donc tout ça est tout de même très grave et très, très toxique. Mais une fois de plus, je crois qu'il faut réfléchir la crise de façon très globale et intersectionnel, pour employer un gros mot, et voir ce qui se passe. Pour certains, ça l'est.
Il faut juste expliquer effectivement que l'intersectionnalité, c'est la condition de lire des situations sociales par l'intermédiaire de prismes comme le genre, la classe, la race, etc. Et la possibilité justement d'allier ces visions différentes pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le terme. Je vous laisse continuer, Laure Murat.
Exactement. Alors quand je vois en revanche le traitement par la presse actuellement, justement, vous citiez ces tribunes, mais où je citais les tribunes des écrivains qui en effet sont majoritairement des hommes, je m'inquiète un peu. Je m'inquiète de voir que non seulement cette crise est gravissime, mais en plus, alors vous parliez du vocabulaire martial, mais il y a aussi une surreprésentation des hommes par la presse que je trouve, moi, très inquiétante. Le Parisien faisait ça sur ceux qui allaient nous dire il raconte le monde d'après, c'était 4 hommes. Le Monde a confié à 16 photographes le soin de nous expliquer comment le monde fonctionnait, c'était 16 hommes. Télérama a fait la même chose avec des photographes, 5 photographes, 5 hommes. Donc, si vous voulez, il y a tous ces problèmes de service, de salaire, de travail invisible, et un problème de représentation, et de représentation publique. Et je trouve ça extrêmement grave, et je ne comprends pas, je continue de ne pas comprendre dans ma grande naïveté, comment la presse ne s'en rend pas compte et ne corrige pas ça.
On y reviendra dans un instant. Vous écoutez Le Temps du débat, une émission consacrée à la possibilité de faire une lecture de genre de la crise du coronavirus avec nos 3 invités.
France Culture, Le Temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Hélène Périvier, vous êtes avec nous, ainsi qu'avec Laure Murin et Laura Fréchasse, dans cette émission consacrée à une lecture de genre de la crise du coronavirus. Hélène Périvier, ce que disait à l'instant Laure Murin à propos de la sous-représentation des femmes dans les tribunes de presse, par exemple, pour lire la crise, c'est aussi vrai, d'après une publication du Washington Post, The Lily, pour les femmes universitaires qui semblent, pendant la crise, justement, avoir moins soumis de papiers dans tous les domaines, d'ailleurs, sciences humaines, mais également astrophysique, que les hommes, alors que a priori elles étaient et ils étaient confinés ensemble. Est-ce que cela signifie effectivement qu'il y aurait une sorte de retour à la maison, retour chez soi, et comme on l'a dit depuis le début de cette émission, de contrainte pour les femmes de s'occuper des enfants, de la maison, etc., et donc de laisser une partie de leur carrière, qui pourrait peser d'ailleurs pour le futur universitaire de ces femmes, sur leur avenir?
Oui, c'est tout à fait intéressant parce que c'est quelque chose qu'on regarde encore une fois au-delà de la crise. C'est quelque chose qui est déjà important, notamment pour comprendre les inégalités de carrière dans la sphère académique. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, à ce stade, c'est encore trop tôt de voir ce qui se passe. Il nous faudra des données sur l'organisation de la famille pendant ce confinement pour comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il peut y avoir des phénomènes qui jouent dans plusieurs sens. S'agissant des carrières académiques, ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est ce qu'on sait déjà. Par exemple, il y a eu un travail très intéressant qui a été publié et qui a montré que quand les universités mettaient en place des politiques de sorte à prendre en compte l'arrivée des enfants dans les carrières académiques et qu'elles le faisaient de façon uniforme pour les femmes et pour les hommes, eh bien, on se rend compte que toutes choses égales par ailleurs, les hommes, ça joue comme un accélérateur de publication pour les hommes, alors que pour les femmes, ça joue juste comme un temps qu'elles consacrent à leurs enfants. Autrement dit, dans ce papier-là, en tout cas, ce qui est montré, c'est que des hommes qui sont dans la sphère académique vont utiliser ce temps qui est censé être utilisé pour éduquer les enfants comme un temps de publication et de recherche, alors que les femmes vont plutôt l'utiliser pour s'occuper vraiment de leurs enfants. Du coup, ce qui appelle à des politiques qui puissent vraiment prendre en compte ces inégalités structurelles dues aux normes de genre pour pouvoir vraiment lutter contre les inégalités de carrière. Donc à l'aune de ce type de recherches qui sont déjà qui étaient là avant la crise, on peut effectivement peut-être apporter un élément de réponse sur le phénomène que vous venez de décrire en se disant que il est possible que pendant le confinement des hommes du coup en profitent pour travailler plus fort et publier plus vite, alors que les femmes du coup se retrouvent avec la charge de l'éducation des enfants et tout ce qu'il y a à faire dans la famille.
Oui, et donc ça pose effectivement là aussi une question d'égalité, égalité non seulement présente, mais égalité future, puisqu'effectivement cela peut jouer sur le nombre de publications que l'on peut présenter justement lors de jurys où on veut se présenter dans une université. Laure Murin, vous qui travaillez à la fois en France et aux États-Unis, vous êtes d'accord avec cette lecture ou est-ce que vous pensez qu'effectivement ça ne freine pas autant que cela les carrières des femmes justement dans les universités américaines?
Si, je pense que de ce point de vue-là, aux États-Unis, je n'ai pas les chiffres, de ce point de vue-là, je suis persuadée que c'est exactement la même chose en France et aux États-Unis. Vous savez, bien souvent, la situation est très proche en France et aux États-Unis, c'est la réponse qui est différente, c'est la réaction qui est différente. Mais du point de vue de la situation elle-même, je pense que c'est exactement la même chose.
Alors, il y a un autre point qui a été abordé par un article de Forbes qui a été énormément, cette revue économique, qui a été énormément relayée dans le monde entier par tout un tas de journaux qui posaient la question de savoir l'efficacité, et là on peut se poser la question de savoir si c'est une lecture de genre, de dirigeantes de pays qui auraient été moins touchées par la crise que par d'autres, qui auraient eu moins de morts, moins de personnes qui auraient été touchées par le virus. C'est une question qui a été donc mise en avant par le magazine Forbes et très régulièrement reprise. Là, en rafraîchasse, est-ce que vous pensez que c'est une bonne lecture de la crise ou est-ce que c'est une lecture un peu paresseuse que de réfléchir à cette question-là de cette façon-là?
Je suis un peu sceptique. Parce que, tout d'abord, il n'y a pas une seule donnée, comme le sexe de la personne qui est chef du gouvernement, qui peut expliquer une situation aussi complexe. Il y a beaucoup d'autres données à prendre en considération. Par exemple, je ne sais pas, la taille du pays ou la densité de population, etc. Et puis, d'un côté, je suis bien contente que l'on montre quelque chose que vous et moi, et probablement les personnes qui nous écoutent, savons parfaitement, c'est-à-dire que les femmes sont parfaitement préparées pour être à la tête d'un gouvernement, mais que la plupart des pays du monde ne l'entendent pas de la même oreille, vu que il n'y a que 6%, je crois, des pays du monde qui sont dirigés par des femmes. Donc, c'est très bien de montrer que ces femmes qui sont à la tête d'un gouvernement font très bien leur tâche. Mais de là à dire que c'est parce qu'elles sont des femmes qu'elles s'en sortent mieux, je pense que c'est un peu dangereux parce qu'on peut aussi donner des contre-exemples, c'est-à-dire quand on dit ces femmes sont prudentes, elles ont de l'empathie, et ceci et cela. C'est vrai que les femmes, par notre éducation, nous sommes plus prudentes, par exemple. Mais d'un autre côté, cette idéalisation des femmes est très dangereuse parce que, comme je vous le disais, il y a des contre-exemples, mais aussi parce que, au fond, il y a l'idée que pour mériter d'être à la tête d'un gouvernement, pour mériter d'avoir le pouvoir, les femmes doivent montrer patte blanche et doivent montrer qu'elles sont meilleures que les hommes. Et cette vieille idée de la supériorité morale des femmes, elle est vraiment très très dangereuse.
Mmh. Hélène Périvier, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Laura Frachès?
Oui, et puis je rajouterais que pour moi, c'est pas tant une lecture paresseuse, c'est une lecture malhonnête de la crise, parce que vous prenez les exemples qui vous arrangent, mais vous prenez pas d'autres exemples. Il y a certainement des pays dirigés par des hommes qui ont très bien géré la crise ou pas. Enfin,
donné l'exemple de Taïwan, on a donné l'exemple d'Angela Merkel, on a donné l'exemple de la Corée du Sud et d'autres pays comme cela, mais effectivement, on pourrait sûrement en trouver ailleurs qui n'ont pas géré en tant que qui étaient des hommes et qui ont géré aussi bien que ces femmes-là, effectivement.
Et du coup, c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est une façon de dire, pour inclure les femmes dans les hautes sphères du pouvoir, il faut vraiment qu'elles fassent la démonstration, ou il faut faire la démonstration qu'elles peuvent être meilleures que les hommes. Donc ça, c'est particulièrement gênant. Ça frôle aussi avec une forme d'essentialisme, puisque on va dire que elles ont des aptitudes que les hommes n'auraient pas. Par ailleurs, moi, en tant que chercheuse, j'aurais plutôt tendance s'il y avait une corrélation, à la voir dans l'autre sens. C'est-à-dire que la causalité va dans l'autre sens, à des sociétés potentiellement plus ouvertes, plus respectueuses, plus inclusives, dans lesquelles, de fait, il peut y avoir plus de femmes dans les sphères du pouvoir, sont peut-être aussi des sociétés plus à même de gérer ce type de crise. Et encore une fois, c'est une hypothèse, je n'en sais rien, ce serait à montrer. Peut-être que ce serait quelque chose qui serait intéressant de poser. Mais cette idée que les femmes leaders seraient meilleures pour gérer les crises, c'est un serpent de mer qu'on voit ressurgir à chaque crise. On a eu la même chose après la crise financière de 2007. On nous a dit que si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, nous n'aurions pas eu cette crise. Et puis, pour autant, en 10 ans, rien ne se passe. Et on nous ressort à nouveau cet argument que je trouve tout à fait dommageable à la question de l'égalité en tant que telle.
Mmh. Et Laure Murat ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, d'autant que ça reconduit aussi des clichés qu'on essaye justement, dont on essaye de se débarrasser, des femmes qui ont un esprit pragmatique, empathique, etc. Je ne suis pas du tout sûre que si la France était dirigée par Marine Le Pen, ça se passerait mieux. J'en sais rien, mais... On peut se poser la question. Ces pays l'Allemagne, le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, etc., sont aussi, on pourrait dire, des démocraties à majorité protestante, bien souvent, qui ont aussi une culture de l'hygiène qui est tout à fait différente, qui ont une culture de l'obéissance qui est différente, et qui, tout ça n'ayant rien à voir avec le fait que ce soit une femme qui soit à la tête. Donc oui, en effet, je rejoins absolument ce qui a été dit en tout point.
Est-ce que, Laure Murat, vous qui êtes évidemment en France ces temps-ci, mais qui connaissez parfaitement bien les États-Unis, où vous enseignez à UCLA, vous avez noté des grandes prises de position? On a vu en France des textes de Judith Butler, par exemple, des grandes prises de position, oui, de grandes voix féministes, aux États-Unis en particulier, sur ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine façon, on a noté, nous, en commandant, en demandant un texte à Nancy Fraser, par exemple, qu'elle nous a dit, dans le texte qui a été publié sur la conversation mondiale, que, eh bien, elle avait bougé sur la question du rapport de production et entre la production et le système du care. Elle dit, nous défendions en tant que féministes l'idée que le système de production dépendait du système du care et non l'inverse, ce qu'on a un peu dit aujourd'hui, mais elle dit, je suis obligée de mettre à jour ma pensée, de constater l'inverse. Le système du care dépend aussi du système de production, et c'est pour ça que d'une certaine façon, eh bien, les femmes qui sont dans les services de soins sont moins protégées, comme les hommes aussi, mais comme elles sont plus nombreuses, elles sont moins protégées parce que ben, on n'a pas de masque, on n'a pas de respirateur, on n'a pas de surblouse comme aux États-Unis et en France également. Est-ce que vous pensez justement que cela peut faire bouger les lignes en matière de lecture féministe de la société, Laure Murat?
Oui, je le crois, mais je suis d'une nature plutôt optimiste, alors il faut faire attention. Mais oui, je le crois et il le faut. Parce que si une crise de cette ampleur ne sert à rien, ça, là, c'est la vraie catastrophe. On remarque que tous les problèmes liés à la sous-représentation des femmes, aux discriminations, aux inégalités, ne sont qu'exacerbés par la crise. Je ne vois, moi, que la sortie de crise et à repenser toutes ces questions. Je trouve que l'exemple que vous citez de Nancy Fraser est très intéressant, de rebattre les cartes et de faire avancer l'agenda féministe. Ça me semble très important dans la conception d'une crise politique. Quelqu'un aux États-Unis comme Alexandria Ocasio-Cortez en a parlé et a bien lié la pandémie avec un projet de politique progressiste et même agressivement progressiste qui doit absolument être mis à l'ordre du jour, à mon avis.
Hélène Périvier, vous êtes d'accord avec cette possibilité aussi que les schémas de lecture féministes pourraient être aussi bouleversés parce que simplement la pratique, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé pendant cette crise, eh bien peut-être aussi infirme certaines visions que l'on avait avant?
Oui, alors je pense que Nancy Fraser a mis l'accent sur cette dichotomie habituelle, reproduction donc, qui serait la sphère des femmes et production qui serait celle des hommes. Et ce qu'elle montre, c'est que cette crise semble évidemment montrer une totale intégration de ces deux processus, production-reproduction. Aujourd'hui, on est dans des sociétés dans lesquelles il y a à la fois le marché économique, mais il y a aussi quand même un état social. Alors il est plus ou moins développé selon les pays, beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Donc c'est pour ça aussi que la question ne se pose pas de la même façon. Par ailleurs, cet état social n'est pas nécessairement féministe non plus, donc c'est à nous de lui donner cette tournure, de sorte à ce qu'il soit vraiment un acteur majeur de l'égalité femmes-hommes. Je pense qu'à la sortie de cette crise, peut-être que oui, on pourra mettre en place des politiques publiques et une organisation, cette articulation entre le marché et le secteur public qui soit beaucoup plus favorable à l'égalité des femmes et des hommes.
Laura Fréchas?
Alors, effectivement, j'ai beaucoup aimé cette phrase, si la crise ne nous sert pas à apprendre quelque chose et à changer quelque chose, alors là, oui, c'est une catastrophe. Mais je pense que il faudrait surtout que les femmes soient plus présentes, non seulement dans le pouvoir, mais aussi dans le pouvoir politique, mais aussi, ou professionnel, mais aussi dans le pouvoir culturel. Par exemple, 70% des professions sanitaires dans le monde sont occupées par des femmes. Ce sont elles qui sont en première ligne des risques de contagion, parce que elles occupent les échelons inférieurs, donc les personnes infirmières ou médecins qui s'occupent du public. Par contre, 70% des postes les plus importants dans les organismes mondiaux sanitaires sont occupés par des hommes, et c'est le schéma que l'on retrouve partout, et c'est ce schéma-là qu'il faut changer. C'est le même schéma que l'on retrouve aussi dans ce que vous avez évoqué, les médias. Qui fait l'opinion? Qui fait les articles scientifiques? J'ai lu quelque part que après les dernières crises sanitaires, il y a eu des analyses, et bien seulement moins de 1% de ces analyses, de ces papiers académiques, étaient consacrés à analyser, à faire cette lecture de genre que nous sommes en train de faire. Si on ne fait pas cette lecture de genre, on ne pourra pas changer. Et c'est vraiment un réflexe que tout le monde devrait prendre, de différencier toujours, par exemple, les données par sexe. En Espagne, le ministère de la Santé différencie bien les données par tranche d'âge, mais par contre ne différencie pas les données par sexe. Or, nous savons que aussi bien les effets primaires sur la santé que les effets secondaires sur l'économie, la société, etc., de la crise sont extrêmement différents selon les sexes. Et je voudrais citer un livre qui est très intéressant d'une journaliste britannique d'origine argentine qui s'appelle Caroline Criado Pérez. Le livre s'appelle Invisible Woman, la femme invisible, et elle montre comment dans tous les domaines scientifiques, techniques, médicaux, etc., etc., le modèle que l'on prend pour faire des politiques publiques ou pour le savoir est toujours le modèle masculin, comme si le masculin représentait l'humain. Et donc on oublie les femmes. Et les conséquences de cela sont par exemple que elle donne des données très très frappantes. Par exemple, dans les épidémies et les désastres naturels dans le tiers-monde, le nombre de femmes qui en sont victimes est le double ou le triple que le nombre d'hommes.
Merci en tout cas, Laurent Fréchasse. Et je rappelle que le texte que vous nous avez confié pour la conversation mondiale est à lire avec bien d'autres textes, dont celui de Nancy Fraser que je citais tout à l'heure, sur le site de France Culture, à la page, donc, Une conversation mondiale. Merci également à vous, Laure Murat, et à vous, Hélène Périvier, d'avoir accepté de discuter autour de cette question d'une lecture de genre de la crise du coronavirus. C'était le temps du débat. Merci à toute l'équipe, Chloé Cambrelin, particulièrement aujourd'hui, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier, et Manon Prissé qui prépare cette équipe avec moi ces émissions et qui continue de nourrir chaque jour cette conversation mondiale en publiant donc des textes d'écrivains, d'écrivaines, d'intellectuels et d'artistes du monde entier sur cette crise du coronavirus. Merci également au service web de France Culture qui nous épaule dans cette tâche, mais aussi pour cette émission enregistrée, on l'a compris, chacun chez soi la veille de sa diffusion, à Jean-Marc Clos, Christian-Denis Lecèvre, Marie-Christine Vesli, à la technique aujourd'hui, Swad Bocorsa et Thibaut Nassimben, à la réalisation, Alexandre Manzanares. Demain, nous allons nous poser la question de ce que fait ce coronavirus, la Covid-19, au milieu de la culture, que ce soit d'ailleurs les milieux de la culture et du théâtre vivant ou de l'opéra ou de la musique, mais également les musées. C'est une crise importante qui s'ouvre devant nous. Nous allons en discuter avec nos invités demain.